C'est évident que je vous demande beaucoup de patience puisque nous sommes en train de construire notre programme. En même temps, ça ne va pas vous échapper qu'en même temps que nous construisons ce programme, nous l'entamons déjà. Donc, ce n'est pas tellement de patience. Alors, notre point de départ la dernière fois, il était très simple. Ça consistait à se donner un ensemble de déclarations splendides des premiers grands auteurs de cinéma et qu'on relit toujours, si on les relit, qu'on relit avec beaucoup de passion, mais en même temps en se disant « Ah ben, c'était le bon temps. » C'est-à-dire que plus personne n'y croit. Mais notre question, c'est déjà en quel sens plus personne n'y croit, pourquoi plus personne n'y croit, et puis, est-ce que ça veut dire que nous avons renoncé à force de lassitude et de médiocrité du cinéma, que nous avons renoncé à établir tout rapport d'un type nouveau entre le cinéma comme discipline et la boxe. Et la dernière fois, je disais, c'est de trois manières que le premier cinéma a lancé ces déclarations qui aujourd'hui, encore une fois, nous paraissent un peu des déclarations de musée. C'était d'une part le cinéma comme nouvelle pensée, d'autre part le cinéma comme art des masses, d'autre part enfin le cinéma comme langue universelle, ou parfois, disait-il, proto-langage. Alors on peut invoquer bien des choses, on l'a vu, pour ébranler cette confiance qui était celle des premiers grands auteurs. Notamment concernant la langue universelle. Et parmi les lieux communs qui nous viennent tout de suite à l'esprit, le fait que le cinéma soit devenu parlant a évidemment mis en question sa prétention à être une langue universelle. Plus encore, la linguistique, quand elle s'est mise à inspirer la critique du cinéma, quand elle a inspiré une certaine conception critique du cinéma sous forme de sémiologie, a pris pour cible, pour objet de sa critique, l'idée supposée naïve de langue universelle. Et a prétendu appliquer ou devoir appliquer au cinéma des catégories du langage infiniment plus précises qui le destituaient de sa prétention à être une langue universelle. Mais enfin, ce n'est pas un événement intellectuel, malgré tout, comme l'analyse linguistique a supposé même qu'elle ait été bien faite. Ce n'est pas un événement de cette nature qui explique que nous ayons perdu la croyance au cinéma comme nouvelle pensée, comme art des masses, comme langue universelle. Et je disais que, conformément aux remarques à la fois de Serge Damet et de Paul Virilio, il y avait un événement qui nous concernait d'infiniment plus près. Ne serait-ce que celui-ci, le cinéma comme art des masses supposait que les masses deviennent véritables sujets. Et c'est vrai non seulement d'un point de vue d'un cinéma révolutionnaire du type Eisenstein, mais c'était vrai pour Gans aussi. Or, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps que les masses ont continué à ne pas devenir sujets. Que bien plus, le cinéma a participé très fort à leur mise en condition. Et que finalement, une mise en scène politique, a rivalisé avec la mise en scène cinématographique et s'en est servi. Et que, bref, en gros, ce qui a sonné le glas des ambitions premières du cinéma, c'est le fascisme ordinaire. Et, comme dit Danet, les grandes manipulations d'État, les grandes mises en scène d'État. Reste que, si vrai que ceci soit, on se trouve devant deux problèmes. Quand même, d'où venaient ces espérances du premier cinéma et en quoi consistaient-elles? Notamment, je disais, il nous faudra un examen assez précis des rapports langue-langage-cinéma pour régler cette question d'une langue universelle. Mais pourquoi et d'où venaient et comment se développaient ces espérances d'un cinéma, nommons-le par commodité, classique? Notre deuxième problème, du côté de l'autre versant, quelle qu'ait été cette bizarre alliance que Virilio analyse si bien, la grande alliance Hollywood-fascisme, ce qui ne veut pas dire que Hollywood ait été fondamentalement fasciste, ce qui veut dire que le fascisme a rivalisé avec Hollywood et s'est vécu, au moins dans la tête de Goebbels, comme rivalisant fondamentalement avec Hollywood, c'est-à-dire faisant une mise en scène d'État comme on n'en avait jamais vu et comme les studios d'Hollywood ne pourraient pas y arriver. Mais de l'autre côté du versant, c'est, une fois dit, que notre cinéma moderne, après la guerre, a renoncé, et même s'est constitué sur la base de ce renoncement, à la grande mise en scène hollywoodienne et a fondé toutes ces découvertes nouvelles. Pensez au néo-réalisme italien, sur cette rupture. Eh bien, dans ce nouveau versant que le cinéma explorait, est-ce que ne se tissait pas un nouveau rapport cinéma-pensée d'un type très particulier, très différent du premier rapport? Et c'est ça qui... Or, la dernière fois, j'ai commencé à dire une chose très simple. Pourquoi est-ce que le cinéma pensait et estimait dès ses débuts avoir une affaire particulière avec la pensée? Et ma réponse, elle est très décevante à force d'être simple. Mais peut-être que c'est au fur et à mesure qu'on s'apercevra qu'elle n'est pas si simple. Je disais, le propre de l'image cinématographique, c'est d'être automatique. C'est la seule ou c'est la première image automatique, c'est-à-dire douée d'automouvement. D'autre part, l'image de la pensée. J'ai essayé d'expliquer la dernière fois en quoi la pensée présupposait une image d'elle-même irréductible à ses méthodes, c'est-à-dire préexistant à toute méthode et préexistant à tout fonctionnement de la pensée suivant une méthode. Eh bien, d'autre part, l'image de la pensée était inséparable de deux automatismes. Dès lors, loin que le caractère automatique de l'image, comprenez l'idée qui est toute simple, loin que le caractère automatique de l'image, est destitué de la pensée, de son pouvoir, comme le pensaient certains à l'époque du début du cinéma. Le caractère automatique de l'image cinématographique allait rencontrer une fois et deux fois le caractère automatique de la pensée. Et je le disais, le premier caractère automatique de la pensée, nous le connaissons tous. Nous le connaissons tous sans bien savoir si l'on peut fonder sur lui une catégorie consistante. Pourquoi ? Tellement les zones d'automatisme, les figures d'automatisme sont elles-mêmes variées. On peut toujours les grouper sous la rubrique générale les mécanismes inconscients ou subconscients de la pensée. Les mécanismes inconscients ou subconscients de la pensée, bon, d'accord. On a vu, ça allait des états de rêve à des états très différents. Suggestion, somnambulisme, délire. Et sans doute, entre tout ça, il y avait des transitions très subtiles, bon. Mais je ne sais pas, moi, pour mon compte, on ne sait pas encore s'il y a lieu de former à ce niveau un concept consistant d'automatisme. S'il y a lieu, on pourra l'appeler automatisme psychologique ou automatisme mental, sans savoir encore combien de phénomènes et lesquels cette catégorie recouvre. La tentative pour constituer un concept consistant d'automatisme psychologique a été faite, je disais, par Janet, à un moment contemporain du cinéma, sans aucune influence du cinéma. Je veux seulement marquer la rencontre, et vers la même époque par Clérambeau, sous le nom d'automatisme mental. La grande différence étant que chez Clérambeau, l'automatisme mental est avant tout neuropsychique, et non pas simplement automatisme psychologique, comme le voulait Janet. Pour que vous voyez mieux à quel point déjà nous sommes en train de grouper des choses dispersées, je dis, mais d'autre part, à la même époque aussi, ou à partir de la même époque, se faisaient de plus en plus des tentatives pour exprimer, avec tout le vague de la notion d'expression, un automatisme proprement psychologique, ou si vous préférez, les mécanismes inconscients de la pensée. Et la tentative littéraire pour exprimer se faisait de tels mécanismes, se faisait dans des horizons divers. D'une part, du côté du surréalisme avec l'écriture dite automatique. Et je ne retiens de l'écriture automatique que vraiment le plus grossier. C'est petit à petit qu'on verra ce que c'est l'écriture automatique. D'autre part, avec D'autre part, avec Joyce et le monologue intérieur, et les deux sont déjà très différents, quitte même à ce qu'on ajoute des tentatives plus récentes, par exemple le cut-up chez Burroughs, qu'il faudrait aussi confronter à ces tentatives. Or, voilà, et voilà, le cinéma dès ses débuts s'estime à tort ou à raison plus apte que la littérature même à exprimer l'automatisme psychologique et les mécanismes inconscients de la pensée. Et j'insiste parce que je voudrais que vous y réfléchissiez. Moi, ça me paraît évident que ce n'est pas par hasard que, d'une part, à la fois, l'image cinématographique est une image automatique et que le cinéma, dès ses débuts, se remplit de personnages qui sont soit des zombies, soit des somnambules, soit des suggestionnés, soit des automates. Ce n'est pas par hasard que, dès le début, le cinéma s'estime en état d'affronter les phénomènes du rêve, de la confusion mentale, du délire. Et même de la fameuse vision des pendus et des noyés. Vous reconnaissez tout de suite les grands thèmes de l'expressionnisme allemand. Vous reconnaissez également, je disais la dernière fois, les grands thèmes de l'école française d'avant-guerre. Où Renoir poussera sans doute particulièrement loin le peuplement de l'image cinématographique par l'automate. Mais vous trouverez des éléments de ce goût du cinéma français pour l'automate mécanique chez tous les grands auteurs, à commencer par Vigo. Et je dis, comprenez que un cinéaste aussi moderne que Bresson, lorsque aujourd'hui il développe sa fameuse théorie du modèle cinématographique par opposition à l'acteur de théâtre, ce n'est pas par hasard s'il fonde le caractère de base de ce qu'il appelle le modèle cinématographique sur l'automatisme quotidien. C'est pour moi déjà une différence fondamentale entre le cinéma et le théâtre. Il n'y a pas de théâtre des zombies. Il n'y a pas de théâtre des automates. Vous me direz, mais s'il y en a. Il n'y a pas de théâtre des somnambules. S'il y en a, bien sûr, il y en a. Mais il y en a depuis tant. À mon avis, il y en a depuis qu'il y a le cinéma. On a beau dire que le fameux docteur Caligari, c'est encore du décor de théâtre. D'une part, ça ne paraît pas évident. D'autre part, l'intrusion du délire, de l'automate, du somnambule comme personnage principal, signe un néo-expressionnisme expressionnisme proprement cinématographique. Et je crois que Bresson a fondamentalement raison lorsqu'il dit. Il ne fait pas une théorie du modèle par opposition à l'acteur en général, il fait une théorie du modèle comme chose proprement cinématographique par opposition à l'acteur comme personnage proprement théâtral. Donc il y a un lien entre la spécificité de l'image cinématographique en tant qu'elle est automatique et les contenus que le cinéma va brasser. Ça me paraît tout à fait évident. Et confirmer notre premier point de départ. Bon, rencontre fondée entre l'image cinématographique et les mécanismes inconscients de la pensée ou l'automatisme psychologique. Et c'est déjà à ce niveau que le premier cinéma noue une sorte d'alliance, de noce avec la pensée. Voyez, si vous me suivez, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je parle d'une construction de programme. Voyez, dans cette partie, si minuscule qu'elle soit, on a réuni déjà beaucoup de directions de recherche, et quand je vous dirai ce que j'attends de vous, ce sera encore plus simple, puisque rien que pour ce thème qui me paraît avoir sa cohérence, on a une direction psychiatrique, une direction littéraire et une direction proprement cinématographique. Mais je dis, automatisme a toujours signifié autre chose aussi, du côté de la pensée. Je dirais que le premier automatisme, c'est quoi ? Il définit l'automatisme psychologique, du rêve à la suggestion, à tout ce que vous voulez. Il définit une espèce de matière noétique, une espèce de chaos noétique. Noétique signifiant ici uniquement ce qui sollicite la pensée, ce qui s'adresse à la pensée. Un objet qui s'adresse à la pensée. Mais l'automatisme avait aussi un tout autre sens, et cette fois-ci, c'était un automatisme grandiose, un automatisme logique, et non plus psychologique. Et la pensée se rêvait comme capable d'instaurer un automatisme logique qui conjurerait l'erreur. Et quand est-ce que la pensée est entrée dans ce rêve d'un automatisme logique qui conjurerait l'erreur ? C'est une vieille histoire, mais pas tellement vieille. Car je crois qu'on peut toujours trouver des... Elle commence avec le XVIIe siècle. Et c'est Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, qui lance sa grande formule. Que l'on arrive à ce que dit-il. Ce que, dit-il, les anciens n'ont pas conçu. Ça veut dire clairement, je romps avec Aristote. Ce que les anciens n'ont pas conçu. Pourtant, ils en ont conçu, les anciens, dans le développement des syllogismes, dans une logique déjà formelle. Ils ont conçu beaucoup de choses. Ben voilà que Spinoza nous dit ce que les anciens n'ont pas conçu, à savoir saisir la pensée comme un automaton spirituel et lancer la grande formule, la pensée comme automate spirituel. Inutile de vous dire qu'on n'est plus du tout du côté de l'automatisme psychologique. On est passé dans un automatisme logique. Je veux dire, à la limite, pour tout simplifier, mais c'est des simplifications qui doivent vous faire frémir, à l'horizon pointe l'ordinateur. ou le cerveau artificiel, tout ce que vous voulez. Point à l'horizon, et peut-être à un horizon relativement proche. Enfin, il faut être prudent. Il ne s'agit plus d'une matière noétique qui constituerait l'automatisme psychologique. Il s'agit cette fois-ci d'une forme de noèse. La noèse étant l'acte de pensée, l'automatisme va être la forme de la noèse. C'est comme un automatisme supérieur. Et voilà que Leibniz est tellement, tellement séduit par le mot de Spinoza qu'il le reprend. Et que, dans un texte, Système nouveau de la nature, vous retrouverez l'affirmation de la pensée comme automate spirituel ou mental. Vous voyez surtout alors qu'il ne faut pas mélanger l'automatisme mental de Clérambault qui renvoie à l'autre aspect de l'automatisme et puis l'automatisme mental ou spirituel de la pensée classique qui prétend au contraire fonder l'ordre des raisons et l'ordre de la logique au sein de la pensée. Eh bien, essayons rapidement de voir qu'est-ce qu'il entendait, Spinoza, par l'automate spirituel. La pensée est en nous comme un automate spirituel. Il voulait dire ceci, c'est que la pensée a la possibilité d'enchaîner ses propres pensées, suivant un ordre purement formel, c'est-à-dire indépendant de la nature des objets qu'elle représente. C'est ça du formalisme. On ne considérerait ni l'existence ni la nature des objets dont la pensée forme l'idée et l'on enchaînerait les idées les unes aux autres, suivant des rapports de nécessité interne, indépendamment du contenu représentatif des idées. On ne considérerait que la forme de l'idée et les enchaînements formels des idées, indépendamment de la nature des objets qu'elles représentent, constitueraient l'automatisme spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je dis, c'est d'une certaine manière ce qu'on appelle l'ordre démonstratif. Il faut croire donc que Spinoza avait des raisons de penser que l'ordre démonstratif n'avait pas atteint son plein développement formel, même chez un grec comme Euclide. Et qu'il fallait lui donner de nouveaux caractères qui en fondaient la formalisation. Quels étaient ces caractères? Très simple. Spinoza nous dit de quelle manière une idée renvoie-t-elle à une autre idée indépendamment du contenu? C'est-à-dire de quelle manière une idée renvoie-t-elle formellement à une autre idée? Sa réponse est toute simple, et ça fondait toute une géométrie à l'époque, exigence d'une géométrie génétique, à savoir où les définitions seraient des définitions génétiques. En d'autres termes, une idée ne devait pas être rapportée à l'objet qu'elle représentait, elle devait être rapportée à sa propre cause. Et l'automatisme spirituel, c'est l'enchaînement des idées suivant les causes et effets. Pas suivant les causes et effets des choses, mais toute idée a une cause qui est une autre idée. Et l'enchaînement des idées à partir des définitions et en fonction des définitions génétiques constitue le formalisme. Ça veut dire quoi, ça? J'ai l'idée de cercle. peu importe encore une fois qu'il y ait des siècles ou qu'il n'y en ait pas dans la nature. Peu importe. Bien plus, peu importe la nature du cercle tel qu'il est dans la nature, c'est-à-dire les causes du cercle. J'ai l'idée de cercle comme figure ou lieu des points situés à égale distance d'un même point appelé centre. Je réclame la définition génétique du cercle. Parce que lieu des points situés à égale distance, c'est bien une définition, mais c'est l'idée de cercle, c'est tout. L'idée de cercle. La définition génétique, c'est quoi? C'est mouvement d'une droite autour de son extrémité, autour d'une de ses extrémités. Remarquez, Spinoza insiste là-dessus, jamais un cercle n'a été fait comme ça dans la nature. À supposer qu'il y ait des cercles dans la nature, chose encore une fois dont on ne s'occupe pas, en tout cas, on est sûr d'avance qu'ils n'ont pas été faits comme ça. Jamais la physique ou la nature ne procède avec une droite, parce qu'une droite c'est une idée, c'est une pure idée, mobile autour d'une de ses extrémités. Donc je vais rattacher l'idée à sa propre cause en tant qu'idée. J'aurai un enchaînement d'idées. Mouvement d'un demi-cercle autour de son axe. C'était ça. J'enchaînerai les idées dans l'ordre dû, comme dit Spinoza, l'ordre dû. Indépendamment de l'existence de leur objet, indépendamment de la nature de leur objet. Pourquoi ? Parce que l'idée aura une nature formelle qui lui est propre. Et l'idée prise dans sa nature formelle, c'est quoi ? C'est l'idée. Rapportée à sa propre cause, cette cause étant parfaitement fictive du point de vue de la nature, mais quoi ? Mais en revanche, n'étant pas fictive du point de vue de ma puissance de pensée. L'enchaînement formel des idées sera donc sous la dépendance d'une puissance de pensée, puissance de l'automate spirituel. Voilà, c'est tout. Remarquez qu'on ira encore plus loin dans ce sens. Car Spinoza ne s'occupe pas. Ce qui intéresse Spinoza, c'est une géométrie génétique. Il ne s'occupe pas de la nature de l'objet représenté par l'idée. Ça n'empêche pas que les idées gardent chez lui une nature interne. Le cercle, la sphère, la droite. On peut concevoir d'aller plus loin. À savoir, qu'est-ce qui se passe si l'on ne considère même pas la nature de la chose dont on pose l'idée. Ou plutôt, si on ne considère même pas la nature de l'idée même. C'est autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas une autre figure de l'automate spirituel? Je veux dire, à la limite, on a quitté le formalisme pour entrer dans quelque chose d'autre, mais qui réalise peut-être encore mieux l'automate spirituel que le formalisme, on est entré dans le domaine de ce qu'on appellera bien plus tard l'axiomatique. Là, on considère des éléments dont la nature n'est pas spécifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Considérer des éléments dont la nature n'est pas spécifiée. C'est très simple ce que je veux dire. C'est que pour que vous ayez le sentiment de la différence entre formalisme et axiomatique, c'est, je veux dire, c'est l'occasion que, enfin, pour certains, il y en a qui le savent déjà, mais pour d'autres, c'est l'occasion de savoir quelque chose, quoi. Ben, c'est pas difficile, supposez que je vous dise, hein, c'est pas difficile à comprendre. Voilà, je vais vous dire, quels que soient les éléments considérés, je réclame E grand R X. Vous me direz, c'est de l'algèbre. Non, c'est pas l'algèbre. Peut-être il a fallu l'algèbre, mais peu importe. E grand R X égale X grand R E égale X. Pas difficile, hein. Grand R veut dire relation. Donc, petit E relation X. Petit I égale petit X relation E égale X. Voyez, est-ce que c'est des cercles, est-ce que c'est des sphères, est-ce que c'est des droites? Je ne considère même plus la nature formelle de l'idée. Alors, qu'est-ce que je considère? Je définis une structure formelle, c'est-à-dire un ensemble. Là, je ne prends qu'un exemple pour que ça ne se complique pas. Dans ce cas, je n'ai qu'une relation. Mais supposons, je considère un ensemble de relations entre éléments non spécifiés. Une fois que j'ai défini ma structure, je peux toujours me demander, pour m'amuser, qu'est-ce qui l'effectue, cette structure? Là, je peux toujours essayer de spécifier les éléments, mais j'en ai pas besoin. Alors, je vous demande, déjà, il y a quelque chose qui est évident. Il y a un élément, facile à spécifier, qui répond parfaitement à la relation. Petit e, r, x, égale e, x, r, petit e, égale x. C'est e égale 0. X étant dès lors un nombre quelconque. Et grand R étant une addition. Un nombre entier, mettons, pour pas compliquer. Un nombre entier quelconque. Et grand R étant une addition. Vous avez en effet 0 plus X égale X plus 0 égale X. Vous me direz, bon, et puis après, quoi. D'accord. D'accord. Mais ce n'est pas forcément des nombres entiers. Ça peut être aussi des déplacements dans l'espace euclidien. Ça peut être des déplacements dans l'espace euclidien. Les déplacements dans l'espace euclidien vérifient aussi E grand R X égale X grand R E égale X. E c'est quoi? À ce moment-là, petit E, c'est ce que l'on appelle le déplacement identique. Le déplacement identique étant celui qui laisse fixe chaque point de l'espace. Bon, vous voyez l'intérêt d'une axiomatique. Ce n'est pas les seuls cas, hein. Je retire les deux cas les plus simples. Structure qui convient à deux domaines absolument étrangers l'un à l'autre. L'addition des nombres entiers, la composition des déplacements dans l'espace euclidien. Vous direz que vous avez constitué une axiomatique. L'axiomatique, je n'en ai retenu qu'une relation. Il va de soi qu'une axiomatique implique plusieurs relations soumises à la seule condition d'être indépendantes les unes des autres. Chaque axiome doit être indépendant. Et à partir de plusieurs axiomes, vous tirez des conséquences, conséquences qui vaudront aussi bien pour l'addition des nombres entiers, la composition des déplacements dans l'espace, et bien d'autres choses encore. C'est une nouvelle figure de l'automate spirituel. Je dirais, pour simplifier, c'est une combinatoire. Ce n'est plus simplement l'ordre démonstratif que Spinoza invoquait, c'est un ordre combinatoire qui était déjà celui de Leibniz. C'est pour ça que je dis les cerveaux artificiels ne sont pas très loin. Chose qu'on en a retrouvée. Or, dans un livre qui a beaucoup agité le début du XXe siècle, le fameux monsieur Test de Valéry, qu'est-ce que vous trouvez ? Là encore, c'est un texte admirable, mais loin d'être un texte initiateur, inaugurateur, c'est comme la grande présentation, le grand achèvement de la pensée classique. Et monsieur Test, c'est le porteur d'une pensée qui se développe à la manière de l'automate spirituel. Et M. Test explique qu'il est porteur d'une pensée qui vit de sa propre substance, à elle pensée, et il invoque l'autonomie de la fonction pensante. Cette autonomie, il l'expliquera, je lis le texte, « Il ne connaît que deux valeurs, monsieur Test. Il ne connaît que deux valeurs, deux catégories, qui sont celles de la conscience réduite à ses propres actes. Il ne connaît que deux valeurs, deux catégories, qui sont celles de la conscience réduite à ses propres actes, le possible et l'impossible. » En effet, peu importe que ça existe dans la nature et comment ça existe. La pensée déduit ses pensées les unes à partir des autres ou combine ses pensées les unes avec les autres, à votre choix. Indépendamment de toute question concernant la réalité. Il ne connaît que deux catégories qui sont celles de la conscience réduite à ses actes, le possible et l'impossible. Dans cette étrange cervelle, alors là, Valéry dit quelque chose de très curieux. Dans cette étrange cervelle, bon, c'est une étrange cervelle, mettons, où la philosophie a peu de crédit. Oui, oui. C'est pourtant elle qui a inventé tout ça. Ça fait rien. Où le langage est toujours en accusation. Il n'est guère de pensée. Non, j'ai tort, évidemment, elle n'a pas inventé l'axiomatique, là. Mais enfin, l'idée de l'automate spirituel dont se réclame M. Test a typiquement son origine dans la philosophie. Comme quoi M. Test est un ingrat, mais il est fondamentalement ingrat. Où le langage est toujours en accusation, il n'est guère de pensée qui ne s'accompagne du sentiment qu'elle est provisoire. Il ne subsiste guère que l'attente et l'exécution d'opérations définies. Sa vie intense et brève, à la pensée, sa vie intense et brève se dépense à surveiller le mécanisme par lequel les relations du connu et de l'inconnu sont instituées et organisées. L'automate spirituel surveille le mécanisme par lequel les relations du connu et de l'inconnu sont instituées et organisées. Et dans ce monsieur test, une page va me paraître très insolite et puis devrait nous convenir. Car je suppose que monsieur test est malade. Je dis je suppose parce que ça ne me paraît pas dit formellement dans le texte. Bien plus, je suppose qu'il souffre d'une maladie incurable. Et cette maladie incurable, alors qu'il porte l'automate spirituel, le rappelle de temps en temps. Le rappelle de temps en temps à quoi ? À un autre ordre. C'est-à-dire, monsieur test, et il tient un discours assez curieux une fois qu'il est couché. Et il dit, j'ai... Et il y a les trois petits points tout le temps, donc il balbutie. J'ai pas grand-chose. J'ai un dixième de seconde qui se montre. Attendez. Il y a des instants où mon corps s'illumine. Alors qu'il est pensée pure, qu'il est porteur d'une pensée pure, porteur de l'automate spirituel. Il y a des instants où mon corps s'illumine, c'est très curieux. J'y vois tout à coup en moi, dans mon corps. Je distingue les profondeurs des couches de ma chair. Et je sens des zones de douleur, des anneaux, des pôles, des aigrettes de douleur. Voyez-vous ces figures vives, cette géométrie de ma souffrance ? C'est pas la même que tout à l'heure. Ça m'intéresse beaucoup que M. Test, que Valérie ait eu besoin. Voilà que, à la haute géométrie de l'automate spirituel, répond une autre géométrie, la géométrie de la souffrance. Les zones de douleur, les anneaux, les pôles, les aigrettes. Il y a de ces éclairs qui ressemblent tout à fait à des idées. N'empêche que c'est des envers d'idées. Ils font comprendre d'ici jusque-là et pourtant ils me laissent incertain. Incertain n'est pas le mot. Quand cela va venir, c'est-à-dire la souffrance de M. Testatant, quand cela va venir, je trouve en moi quelque chose de confus ou de diffus. Il se fait dans mon être des endroits brumeux, alors que l'automate spirituel, au contraire, est toute rigueur et clarté. Je trouve en moi quelque chose de confus ou de diffus. Il se fait dans mon être des endroits brumeux. Il y a des étendues qui font leur apparition. Alors, je prends dans ma mémoire une question, un problème quelconque. Je m'y enfonce. Je prends dans ma mémoire, c'est-à-dire dans l'automate spirituel. Je prends dans l'automate spirituel une question, un problème quelconque. Je m'y enfonce. Je compte les grains de sable. Et tant que je les vois, ma douleur grossissante me force à l'observer, elle la douleur. Ma douleur grossissante me force à l'observer, j'y pense. Et voilà ce qu'il fallait. Je n'attends que mon cri. Et dès que je l'ai entendu, l'objet, le terrible objet, devenant plus petit et encore plus petit, se dérobe à ma vue intérieure. Le cri, c'est ce qui a confronté les deux automatismes. La confrontation des deux automatismes, l'automatisme neuropsychique et l'automatisme logique, l'automate spirituel, se sont étreints un court instant. Dans ce court instant a jailli le cri. Et s'il n'y avait pas besoin de ça, le cri ou quelque chose de semblable? Pourquoi? C'est que l'automate spirituel, c'est la plus belle chose que nous puissions habiter, qui puisse nous habiter. L'automate spirituel, c'est le Dieu en nous. Seulement voilà, il n'y a qu'un inconvénient pour l'automate spirituel, c'est qu'il reste éternellement suspendu dans la pure possibilité. Il ne connaît que deux catégories, le possible et l'impossible. Spinoza, il s'en tira. Je fais une très brève parenthèse pour ceux qui connaissent Spinoza. Spinoza, il s'en tira parce que, mais il sera amené à ne pas reculer devant une conclusion fantastique, à savoir tout le possible est réel. Il tient tout. Mais même Leibniz ne pourra pas dire ça, il ne pourra pas dire tout le possible est réel. En tout cas, l'automate spirituel, même si tout le possible est réel, l'automate spirituel reste éternellement suspendu dans sa propre possibilité, qui est la possibilité de penser. Alors surgit, et je ne prétends pas faire des mélanges, ce sera à vous de voir si tout ça est fondé, et nécessairement fondé. Alors surgit peut-être une espèce de cri, ce que j'appelais la dernière fois un cri philosophique, peu importe pour le moment qu'il a dit, qu'il a prononcé, que nous ayons la possibilité de penser ne garantit pas encore que nous en soyons capables. En effet, que la pensée soit notre possibilité logique, nous le savons tous. Est-ce que ça veut dire que nous pensons? Que la pensée soit notre possibilité logique, cela veut dire que nous avons en nous, nous logeons en nous l'automate spirituel. Est-ce que nous pensons? Que nous ayons la possibilité ne garantit pas que nous en soyons capables. Ce beau texte, qui va avoir de grandes conséquences, beaucoup d'entre vous l'ont reconnu, c'est le début de « Qu'appelle-t-on pensée ?» de Heidegger. Et je ne prétends pas le rattacher à la philosophie de Heidegger, on verra si on la rencontre, mais j'extrais ce texte comme ayant de toute manière une valeur pour nous. Que nous ayons la possibilité de penser ne garantit pas encore que, et ne dit pas encore que nous en soyons capables. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut faire que l'automate spirituel entre en mouvement. Il faut quelque chose. Dans le langage de Heidegger, il faut quelque chose qui donne à penser. Sinon, nous resterons éternellement dans la possibilité de penser, mais nous ne penserons pas pour autant. Il faut quelque chose dans son langage, il faut que nous accueillions ce qui donne à penser. Sinon, nous ne sortirons pas de la catégorie du possible. Bien. Est-ce que c'est pas là alors que, tout à fait indépendamment de Heidegger, je vais retrouver quelque chose qui m'intéresse quant à notre problème cette année? Je dirais, ce qui donne à penser, ce qui va nous donner la capacité par-delà la possibilité, c'est quoi? La nécessité d'un choc. Il faut un choc pour mettre en mouvement l'automate spirituel. Pas n'importe quel choc, il ne suffit pas de taper dessus, parce que si on tape dessus, alors on serait ramené à l'automatisme psychologique. C'est-à-dire l'étourdissement, au besoin l'évanouissement, l'amnésie, l'aphasie, si vous avez tapé trop fort sur l'automate spirituel, vous retombez dans l'automatisme psychique. Il faudrait quelque chose de très particulier qui soit un no-choc. Alors on peut toujours former cette notion de no-choc. Nos, c'est le mot grec qui désigne la pensée. Un no-choc. Bon. Un no-choc, ce serait ce qui donne à penser. Ce qui nous fait donc sortir de la simple catégorie du possible. Je continue mes rêveries. Est-ce que le cinéma, d'une certaine manière, qui donc, on l'a vu, affrontait l'automatisme psychologique, est-ce qu'il n'était pas amené aussi à affronter l'automatisme logique, l'automate spirituel? Ça paraît beaucoup moins évident. Et pourtant, est-ce que les images cinématographiques n'allaient pas, dans certains cas, prétendre s'élever à un ordre où elles se déduiraient les unes des autres, suivant des enchaînements formels? Ou bien ça ne veut rien dire, ou bien il faudrait dire quels sont ces enchaînements formels. Je dis une hypothèse, ces enchaînements formels pourraient être des mouvements de caméra. Les enchaînements formels allant d'une image à une autre seraient les mouvements de caméra. Pas n'importe quel mouvement de caméra. En d'autres termes, est-ce qu'il y a possibilité pour un cinéma théorématique? Alors on pourrait chercher des choses compliquées dans le cinéma abstrait, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est très précisément une phrase d'Alexandre Astruc. Alexandre Astruc, à la fois cinéaste et réfléchissant beaucoup sur le cinéma, dit peu de temps après la guerre, c'est un texte de 1949, l'expression de la pensée est le problème fondamental du cinéma. Bon, j'aime bien qu'il dise ça en 49, parce que Gans et Eisenstein ne disaient pas autre chose. Il y a eu pourtant la guerre. Donc, Astruc, après la guerre, maintient que le cinéma n'a qu'un problème, l'expression de la pensée. Et il dit, avec la guerre, quelque chose a changé. Et il dit voilà, avant le cinéma il est très prudent, le cinéma muet procédait plutôt par association d'images, d'où l'importance du montage dans ce cinéma. Il dit une chose très simple, le cinéma muet procédait par association d'images, d'où l'importance du montage. On verra qu'est-ce que c'était que ces associations, là on aura à retrouver ça. Et il dit, maintenant, vous voyez tout de suite que le texte est signé, quant à sa date, c'est le moment où on ne se lasse pas de découvrir à la suite de Wells la profondeur de champ. Et où à certains égards, on croit, peu importe si c'est à tort ou à raison, que la profondeur de champ met le montage dans l'image. Donc, intériorise le montage. Et à la limite, le secondarise, le rend secondaire. Et voilà ce que ajoute Astruc. Nous avons de plus en plus tendance à nous apercevoir que le déroulement du film ne procède plus d'après une association d'images, mais se fait sur le mode d'un théorème. Un théorème. C'est curieux qu'il emploie ce mot. Une pensée théorématique. Le cinéma, avec la profondeur de champ, avec d'autres... ou avec d'autres procédés, deviendrait un cinéma théorématique dont les enchaînements formels seraient les mouvements de caméra. Pour ceux qui savent, ça ne vous étonnera pas, et c'est ça ce que voulait dire Astruc avec sa fameuse histoire de caméra stylo. La caméra stylo, ça veut dire quelque chose de très précis, mais qui n'est pas, il me semble, ce qu'on croit d'habitude. C'est un cinéma qui engendrerait les images non plus d'après des associations d'idées, mais d'après des enchaînements formels constitués par les mouvements de caméra.